excellent réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La peur du SARS-CoV-2 existe-t-elle vraiment chez tous les Français? Le couvre-feu concernera demain les deux tiers de la population. Annonce faite par le gouvernement hier, mais vous l'entendrez, les effets économiques sont plus redoutés que les conséquences sanitaires.
Nous analyserons ensuite la prise de parole du Premier ministre Jean Castex. Si ses mots étaient forts, il a donné l'impression de ne pas maîtriser totalement son sujet.
Dans ce journal, nous reviendrons ensuite sur le débat de la nuit entre Donald Trump et Joe Biden aux États-Unis. Les deux candidats à la présidentielle ont pu aborder les sujets de fond, s'affrontant sur tous les sujets justement. Leur conclusion à suivre.
Et puis vous entendrez de jeunes Libanais qui fuient leur pays et la crise économique, prenant tous les risques en voulant traverser la Méditerranée. Ils s'expliquent au micro de notre correspondante.
Dans un gros quart d'heure, nous retrouverons Frédéric Seyss pour le billet politique. Et cette question ce matin, la justice est-elle trop rapide dans l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire ? Mais d'abord, une semaine après l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty, nous vous proposons d'écouter un échange qui a eu lieu hier dans la Vienne, à Poitiers. De la difficulté de comprendre l'autre, de faire nation. La secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement participait à une réunion des centres sociaux dans le cadre du réseau Jeunes. Face à elle, 150 étudiants pour évoquer la République, ses droits et ses devoirs. Mais Sarah El-Haïry n'a, semble-t-il, pas convaincu son auditoire, Isabelle Rivière.
C'est comme si tous ces jeunes et la ministre ne parlaient pas la même langue.
Les essentiels, c'est quoi? C'est une histoire, ce sont des symboles, c'est un drapeau, c'est une Marseillaise, c'est une école, c'est une institution. Ça, ça nous unit. Le reste nous divise. Et plus on sera unis, plus on réduira ces divisions. Donc moi, je vous invite à chanter la Marseillaise après ces débats, si vifs et si forts.
Silence pesant, applaudissements. Et finalement, la ministre se lance.
Allons, enfants, la patrie, jour de gloire est arrivée.
Une partie de la salle la rejoint. Mais nombre de jeunes ne chantent pas, ils s'en expliquent ensuite.
On dit aux armes citoyens ? Non, enfin, on parle d'unité et on veut pas du tout de conflit justement.
Chanter la Marseillaise, pour moi, c'est balayer tout le travail qu'on a fait et c'est pas nous écouter tout simplement.
C'est qui le sang impur dans la Marseillaise ? Il est barbare ce chant. Est-ce que
c'est
vous vous rendez compte ?
C'est notre chant national.
Mais quel c'est notre chant ?
C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rassemble.
Sauf que dans la réalité, la plupart de ces jeunes issus de la diversité ont le sentiment qu'on ne leur fait pas de place dans cette République et que leur différence est davantage pointée que l'unité mise en avant.
Merci Isabelle Rivière de France Bleu Poitou pour France Culture. L'avantage de cet événement, a toutefois reconnu la ministre hier, est qu'il développe l'esprit critique des jeunes et qu'il incite au débat. Elle promet de faire remonter ses témoignages auprès de l'exécutif. Sachez par ailleurs qu'à la mi-journée tout à l'heure, les imams de France pourront s'inspirer d'un texte commun devant leurs fidèles pour la prière du vendredi. Texte envoyé par le Conseil français du culte musulman. Il y prône la République laïque, indivisible, démocratique et sociale. Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty encore, je précise que l'enquête avance peu à peu. Le compte Twitter du terroriste avait fait l'objet de plusieurs signalements à la plateforme Pharos au sein du ministère de l'Intérieur. Le dernier de ces messages date de 6 jours avant l'attentat. De la difficulté maintenant de ne pas alarmer tout en responsabilisant. Le point sanitaire hebdomadaire avait quelque chose de plus solennel qu'habituellement hier. Au ministère de la Santé, Olivier Véran était accompagné du Premier ministre Jean Castex. Il a annoncé l'extension du couvre-feu nocturne. 54 départements sont désormais concernés, principalement sur toute la moitié est de la France. Idem pour la Polynésie. Cela concerne 46 millions de Français, plus des deux tiers de la population. Et la situation pourrait encore s'aggraver, dit Olivier Véran.
Le nombre de formes graves, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'admissions en réanimation et le nombre de décès va forcément augmenter dans les semaines qui vont venir. Parce que ce n'est que le reflet des malades qui sont diagnostiqués actuellement. Un malade qui se contamine va développer des symptômes 4 à 5 jours après. Et les formes graves apparaissent entre 8, 10, voire 15 jours après la contamination. Ainsi, quand vous avez une incidence comme celle que nous avons en France ou en Europe chez des personnes dites fragiles, vulnérables de fait de leur âge, eh bien, on le sait, hélas, qu'un certain nombre d'entre elles iront nécessairement à l'hôpital et en réanimation. Donc il est, sur cette base-là, difficile de vous dire quand aura lieu le pic. Finalement, le pic, il aura lieu ce sera le moment où on aura enregistré l'inflexion de la courbe d'incidence et on commencera à réduire le nombre de cas. Moi, si vous voulez ma réponse idéale, ce serait la semaine prochaine. Ça voudrait dire que les mesures auraient permis d'infléchir la courbe. Je n'en suis pas certain, en tout cas pas dans les proportions nécessaires pour avoir vraiment une diminution franche. Ce que nous voulons, c'est déjà des premiers frémissements d'une réduction de l'incidence au cours de la semaine prochaine. Quant aux prédictions à Noël, c'est comme, je vous fais la même réponse qu'à chaque fois quand on parle de prédictions, tous ceux qui en ont fait s'en sont plantés.
Voilà pour la mise en garde du ministre de la Santé. Précisons que cette alerte maximale ne touche pas que les villes. Des départements ruraux sont aussi concernés, comme la Lozère, l'Ariège ou le Tarn. C'est dans le Tarn, d'ailleurs, que s'est rendue Stéphanie Glesis à Albi. La peur semble davantage économique que sanitaire. Écoutez.
Rien ne laisse supposer, en se promenant dans les rues d'Albi, que le couvre-feu se prépare. Les restaurants sont bien garnis, les habitants, voire les touristes, pour la plupart masqués, se promènent comme d'habitude. Lola, jeune lycéenne, a déjà pensé à contourner le couvre-feu.
Ça ne me change rien du tout, parce que même si on sort, c'est de 21h à 6h du matin. Enfin, les soirées, ça ne dure pas deux heures. Donc. Dans tous les cas, on n'est que dans des petits villages, donc je pense qu'en vrai, ça ne va pas être tant respecté que ça, pour être honnête. Hein. De toute façon, on va rester chez la personne avec qui on fait la fête, on reste toujours deux jours pour faire les soirées, donc ça ne change rien du tout. Enfin, on repart toujours le lendemain.
Sébastien, qui est restaurateur, est très pessimiste.
C'est catastrophique. Économiquement, c'est un coup de massue sur la tête. C'est vraiment... j'endors pas la nuit. Là, on est à genoux. Il y a eu un relâchement quand même cet été. J'ai l'impression qu'on nous a leurré. C'est partez en vacances, amusez-vous bien, parce qu'à la rentrée, ça va faire mal.
Pour l'insouciance des sorties, comme le dit Sylvie...
C'est fini. C'était avant.
Soit ils prennent des mesures drastiques et ils font un vrai confinement court, mais réel. Les gens vont se réunir chez eux. Enfin voilà, on est tous pareils. Hein. Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Ça va être boulot dodo pendant 6 semaines. Et ça, les habitants rencontrés n'y sont pas encore tout à fait prêts.
La parole politique n'est donc pas totalement entendue par les Français. Peut-être aussi que l'exécutif n'est pas totalement impliqué. C'est en tout cas criant pour Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Vous notez une quasi-absence du Premier ministre Jean Castex, qui était pourtant physiquement présent hier.
Comme un lapin dans les phares d'une voiture. Le Premier ministre était tout raide, derrière son pupitre, le regard fixe.
Concernant la situation sanitaire.
Lisant son prompteur comme un écolier qui s'applique pour ne pas trébucher.
Et les mesures relatives au couvre-feu.
Il a égrené quelques chiffres.
Ce sont 54 départements et un territoire d'outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu, soit 46 millions de nos concitoyens.
Et puis très vite...
Je cède la parole à Olivier Béran.
C'est le ministre de la Santé qui a pris la main et qui a expliqué.
Le virus circule moins vite qu'au printemps dernier.
Le pourquoi de telles mesures, les effets escomptés, à quelle échéance. Lui n'avait pas besoin de prompteur, il maîtrise son sujet et l'exercice est rodé. Du coup, Jean Castex a endossé le rôle de celui qui distribue la parole.
Je voudrais donner la parole au professeur Étienne Gaillat, directeur médical de crise. La ministre va vous présenter les mesures que le gouvernement a décidées.
Je demande au ministre de la Santé de s'approcher du pupitre.
Il s'est quand même autorisé quelques incises, en invitant notamment les Français à télécharger la nouvelle application de traçage du gouvernement, tous anti-Covid.
Elle est disponible au téléchargement dès aujourd'hui et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même.
À chaque fois, il s'est montré comme ça très maladroit. Cette précision qu'il aurait téléchargé l'application, contrairement à la précédente Stop Covid qu'il avait avoué ne pas avoir installée, résume en quelque sorte la prestation du Premier ministre hier. Il s'est livré à un exercice obligé dans lequel il s'est révélé très mal à l'aise et qu'il n'a pas su s'approprier.
Stéphane Robert, j'ajoute enfin que le gouvernement promet d'accompagner les entreprises face à cette extension du couvre-feu. Il débloque pour cela 115 millions d'euros spécifiquement pour le secteur culturel, scindé comme suit, et 85 millions d'euros pour les acteurs du spectacle vivant, 30 millions pour les cinémas.
Il a évidemment été question de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis cette nuit, Clara.
Oui, pour le deuxième et dernier débat télévisé avant la présidentielle qui aura lieu dans 11 jours. Il était organisé ce débat à Nashville dans le Tennessee et ce fut plutôt constructif et respectueux. Joe Biden et Donald Trump sont restés courtois, évoquant les sujets désormais habituels, Covid-19 effectivement, économie ou accusation de corruption. Pour clore cet exercice, chacun avait droit à une conclusion. Donald Trump a voulu, lui, balayer la crise sanitaire. Il promet un renouveau pour les États-Unis.
Nous devons faire en sorte que notre pays ait autant de succès qu'avant, avant que cette peste venue de Chine n'arrive. En ce moment, nous reconstruisons et nous battons des records. 11 400 000 emplois ont été recréés très rapidement. Le succès va nous rassembler. On est sur ce chemin-là. Mais moi, je veux réduire vos impôts, alors que lui veut les augmenter. Il veut des nouvelles régulations, surtout. S'il est élu, vous aurez une récession comme jamais on en a vu. Vos économies partiront en fumée et ce sera un jour très triste pour ce pays.
Redresser l'économie, oui, mais de façon réaliste, a préféré dire son adversaire démocrate, Joe Biden.
Je serai un président américain, je vous représenterai tous, que vous ayez voté pour moi ou contre moi. Je vais vous donner l'espoir. Nous allons choisir la science plutôt que la fiction, l'espoir plutôt que la peur. On va avancer ensemble parce que d'immenses opportunités se présentent à nous afin que les choses aillent mieux. On peut relancer cette économie, on peut s'attaquer à ce racisme systémique. Et dans le même temps, on peut faire en sorte que notre économie soit tournée vers les énergies propres et renouvelables afin de créer des millions de nouveaux emplois. Ce qui est en jeu, c'est l'identité de ce pays, la décence, l'honneur, le respect, traiter les gens dignement, faire en sorte que chacun ait sa chance. Je vais agir pour que vous ayez cela. Vous en avez été privé ces quatre dernières années.
Des propos traduits grâce à notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. J'ajoute ce risque électoral assumé cette nuit par Joe Biden, en tête toujours des sondages. Il dit vouloir se détourner à terme de l'industrie pétrolière, dont dépend largement l'économie de plusieurs États clés pour la présidentielle. L'armée américaine annonce avoir mené une frappe contre des représentants d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Une opération hier qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a fait 14 morts, dont 5 djihadistes étrangers et 6 commandants. Ils regardaient de loin, il y a encore quelques mois, leurs voisins syriens ou libyens le faire, bravant tous les dangers pour traverser la Méditerranée. Voilà que les jeunes libanais le font aussi. Depuis cet été, ils montent par dizaines sur des bateaux clandestins pour tenter de rejoindre Chypre et donc l'Union européenne. La crise économique au Liban est trop grande pour y rester, selon eux. Notre correspondante Chloé Doma est dans le district de Tripoli, au nord du pays, d'où partent la majorité de ces bateaux clandestins. Elle nous raconte.
Tripoli, la deuxième ville du Liban, est aussi la plus pauvre. Ici, la moitié de la population est au chômage et avec la crise économique, les prix ont explosé. Dans une épicerie du centre-ville, Aboudi, 27 ans, ne sait plus quoi acheter.
Tous les jours, les prix augmentent. Ma mère m'a demandé d'acheter du fromage et des olives, mais il y en a pour 25 voire 30 euros.
Comme beaucoup de jeunes, Aboudi rêve de prendre un bateau clandestin pour Chypre, première porte de l'Europe à 160 km des côtes libanaises.
Avec mes amis, on parle tout le temps de quitter ce pays et tant pis si c'est illégal.
Pourtant, il sait que la traversée est dangereuse. En septembre, une barque a dérivé en mer pendant 8 jours avant d'être secourue par les Nations Unies. 13 passagers sont morts, dont le petit Sofiane, 2 ans. Son père, Mohamed, raconte.
Le soleil tapait très fort et on n'avait plus d'eau. Mon fils a commencé à avoir soif, il pleurait. Je lui ai donné de l'eau de mer et là il s'est mis à vomir. Il est mort devant moi et je l'ai jeté dans la mer. Je ne sais pas quoi vous dire, quand j'y pense, j'ai peur de devenir fou. Avant, je voyais les réfugiés syriens partir clandestinement en Europe. Je me demandais comment ils pouvaient faire ça. Et voilà, j'ai fait la même chose. Pour moi, ce sont les politiciens libanais qui sont responsables. Ce sont eux qui nous obligent à immigrer.
Il y a un an, des manifestations contre la classe politique avaient éclaté partout au Liban. Mais depuis, aucune réforme n'est venue améliorer le quotidien des habitants. Dégoûtés, de plus en plus de Libanais tentent de fuir leur pays par tous les moyens.
Chloé Doma pour France Culture. Et pour aller plus loin, vous pouvez écouter ou réécouter le grand reportage de la rédaction de la semaine dernière tourné par Aurélien Collier au Liban. Il était consacré au pays, au bord de l'effondrement et à son possible avenir. C'est à retrouver sur franceculture.fr. Ce vendredi, c'est dans les Hautes-Alpes que nous emmène le grand reportage auprès des habitants qui voient d'un œil impuissant fondre les glaciers. Ils auront disparu d'ici la fin du siècle. C'est le département français, les Hautes-Alpes, où les effets du réchauffement climatique sont les plus visibles. Il faut donc trouver des solutions d'adaptation, mais elles sont loin d'être évidentes pour le glaciologue Bernard Francou que Véronique Robert à rencontrer.
Si vous êtes dans les stations de ski, le tourisme hivernal par exemple, hein, eh bien, la solution actuellement c'est effectivement la neige de culture. Avec la neige de culture, on est tranquille entre guillemets au-dessus de 1800 mètres jusqu'en 2050 à peu près. Alors l'adaptation également possible, et on le voit bien actuellement, vous voyez les stations de ski en France, mais pas seulement en France mais en Suisse et en Autriche, il y a énormément de projets qui sont déposés pour étendre le domaine skiable, vers où ? Ben vers le haut, forcément, sur les glaciers. Et quels sont les arguments ? Les arguments, c'est le changement climatique. Donc ça s'appelle une fuite en avant ou une fuite vers le haut. Voilà. Donc le problème du ski est un beau problème, à mon avis, parce qu'il met le doigt justement sur une forme de tourisme en montagne qui est menacée à terme. Pas les grandes stations, hein, mais les petites, moyennes stations qui ne dépassent pas 1500 mètres ou 2000 mètres d'altitude, elles sont véritablement menacées. Donc, il est urgent pour elles de diversifier leur tourisme.
S'adapter au changement climatique, c'est déjà une réalité dans les Hautes-Alpes. Nous irons sur place ce soir avec le grand reportage que vous propose donc Véronique Rebérotte de 17 à 18 heures sur France Culture. Il a été réalisé grâce à Annie Bro et il sera présenté par Catherine Pétillon. Le temps va s'améliorer sur le nord et le nord-ouest de la France métropolitaine ce vendredi. Il sera souvent pluvieux ailleurs avec des températures homogènes. 14 à 17 degrés en moyenne ce matin, 16 à 19 degrés cet après-midi, Guillaume. Thank you.